Et ça tombe bien parce que ce matin, je voudrais être reconnaissant envers celui qui m'a appelé, qui m'a donné un petit coup de fil ce matin, je ne le nommerai pas. Il m'a donné un petit coup de fil ce matin pour m'encourager. Alors je lui suis reconnaissant. Habituellement, une prédication commence par la lecture d'un passage de la Bible. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Je vais commencer par vous raconter une histoire. J'ai été interpellé par un court-métrage de 3 minutes et demie et je vais brièvement vous en raconter l'histoire. Il met en scène un enfant, nous l'appellerons Tom, c'est plus facile. Tom est assis sur un banc, il a l'air triste. Une chose est évidente, il est malheureux parce que ses chaussures sont complètement ouvertes sur le devant. D'ailleurs, on peut voir ses orteils. Ses vêtements sont sales et troués, il se lève, la mine renfrognée, et il traîne les pieds vers un ruisseau pas loin de l'endroit où il se trouve. De retour vers son banc, il y a un autre garçon qui est assis. Il a pris sa place. Il est propre sur lui, ce petit gamin est très propre sur lui, pas un seul trou dans ses vêtements, ses chaussures, des baskets blancs, neuves, magnifiques. Ce petit garçon lui fait un signe de la main et lui décoche son plus beau sourire. Alors, Tom ne répond pas, ni au signe de la main, ni au sourire. Bien au contraire, Tom va s'asseoir plus loin, le dos contre un arbre. Tom retire ses chaussures toutes déchirées, et il se met à les faire parler. On a déjà vu ça dans un film de Charlot, hein. À un moment donné, Tom se concentre et il dit en son fort intérieur, « Je veux être comme ce garçon. » Je veux être à la place de ce garçon. Et Tom le pense fort, tellement fort que, paf, ça se réalise. Évidemment, on est dans un film. Hein. Son vœu se réalise. Tom se retrouve à la place de ce gamin, avec les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, blanches, immaculées, neuves. Deuxième photo. Vous voyez la joie de l'enfant. Hein. En arrière-plan, c'est une photo de 1945 à la Libération. C'est un enfant qui vient, un orphelin qui vient de recevoir des chaussures. En arrière-plan, on peut voir l'autre enfant courir, sauter, jouer, faire le fou, malgré les chaussures trouées et les haillons qu'il porte. Il est fou de joie. Alors maintenant, revenons à Tom. Tom est assis sur le banc. Il est propre, comme un sou neuf. Des vêtements impeccables, les chaussures sont blanches, immaculées, je vous l'ai dit. Mais maintenant arrive une troisième personne. Cette troisième personne, c'est sa maman. Alors, elle s'excuse d'avoir été aussi longue, elle a été retenue et elle regrette d'avoir fait attendre son enfant aussi longtemps sur ce banc. Un détail qui a toute son importance. Elle pousse une voiture pour personnes à mobilité réduite. La fin de cette histoire nous montre Tom, assis dans la voiturette, il se concentre très fort pour inverser la situation. Et bien évidemment, rien ne se passe dans ce petit film-là, il est trop tard, il regrette amèrement son ancienne situation, fin de l'histoire. Alors quel est l'enseignement que nous pouvons retirer de cette histoire ? Tom ne s'est pas soucié de son prochain. Et c'est bien dommage, car la mésaventure qu'il a connue est bien la conséquence de son manque d'amour, de son manque d'intérêt pour son prochain. Que se serait-il passé si Tom avait été reconnaissant de sa situation, au lieu de voir tout en noir ? Et aussi, que se serait-il passé s'il s'était, ne fût-ce qu'un seul instant, intéressé au sort des autres ? Et en l'occurrence, de ce petit enfant qui est handicapé, plutôt que de gémir sur son propre sort. Peut-être, je dis bien peut-être, aurait-il été content de sa situation. Le premier enseignement que nous pouvons retirer, et certainement le plus important que nous pouvons retirer de cette histoire, c'est que Tom a failli. Il a failli au plus grand des commandements. Bien sûr, nous connaissons tous ce commandement par cœur, mais nous allons quand même le relire. Alors, nous allons lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, que ceux qui ont une Bible la prennent, Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. 22, 36 à 40 de Matthieu. « Maître, maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. » Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Maintenant, je voudrais vous parler de deux autres enseignements que nous pouvons retirer de ce court-métrage. Le premier enseignement que nous pouvons retirer, c'est être content de sa situation. Le deuxième enseignement, c'est être reconnaissant de sa situation. Alors, nous allons commencer par être content de sa situation. Un des secrets de la vie heureuse se trouve dans le contentement de sa situation. Et bien évidemment, la Bible nous parle de ce secret de la vie heureuse. La Bible nous enseigne à être content de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets, beaucoup de passages de la Bible. Et ce serait vraiment perdre beaucoup de temps, et je vois que le temps nous manque, hein, puisque le temps, il est déjà 20. Le temps nous manque, donc je ne vais pas vous attendre. Je vais lire sans vous attendre. Le message est mis en ligne, et vous savez bien que vous pouvez retrouver toutes les références sur les écrits qu'il y a. Et pour celui qui n'a pas Internet, qui me demande, je lui donnerai les versets. Nous vivons dans une société qui nous pousse en permanence à la consommation. Pourtant, je ne suis pas sûr que posséder une maison, une voiture ou le dernier smartphone puisse combler les besoins profonds de notre cœur, même si posséder toutes ces choses est bien agréable. Depuis les Golden 60s, depuis les années 60, nous vivons une époque charnière où l'on aimerait nous faire croire que le bonheur est dans ce que nous possédons. Alors surtout, ne croyez pas cela. Notre cœur a soif de quelque chose de bien plus grand, de bien plus majestueux que ce que le monde peut nous offrir. Notre cœur n'a pas besoin de quelque chose. Notre cœur a besoin de quelqu'un. Et je veux parler évidemment de notre Seigneur Jésus. Lui seul peut combler tous nos besoins. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein, c'est la Bible. Dans son épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Mais alors, si nous avons tout pleinement en lui, que nous manque-t-il ? Eh bien, il nous manque le contentement, être content de sa situation. Et c'est ce que je voudrais développer avec vous aujourd'hui. Paul nous dit qu'il a appris à se contenter de ce qu'il a. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 11, il dira « J'ai appris à être content ». Autrement dit, Paul avait trouvé le contentement et le bonheur dans son état actuel. Paul n'était pas tourné vers ce qu'il n'avait pas encore. Il n'était pas tourné vers ce qu'il ne possédait pas. Il n'était pas tourné vers ce qu'il aurait désiré avoir. Non, Paul se satisfait de sa situation. Posons-nous la question, sommes-nous contents avec ce que nous avons ? La Bible nous interpelle et elle nous parle. En Hébreux, chapitre 13, verset 5, il est dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Mes amis, mes frères et sœurs, Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est lui qui nous comblera encore. Et encore, et encore. Mais quels sont nos besoins réels ? Avez-vous déjà remarqué que ce qui est un trésor pour l'un peut très bien sembler un objet sans valeur pour l'autre ? Ce qui me semble inutile peut vous sembler indispensable. Ce n'est qu'une question de perspective. Alors je m'explique. Est-ce qu'il y a des philatélistes parmi nous, des collectionneurs de timbres ? Des timbrés, ça y en a quelques-uns, mais apparemment il n'y a pas de philatéliste, donc pas de chance pour moi. Je vais vous présenter un timbre qui est considéré comme étant le plus cher au monde. C'est le Treskilling. Treskilling. Alors le Treskilling est jaune, hein, jaune-vert. Moi je ne me connais pas très bien dans les couleurs, mais je crois que ça doit être ça. C'est un timbre. Quelle est la particularité de ce timbre ? Eh bien, à la base, ce timbre devait être imprimé en couleur bleu-vert. Mais pas que. Il devait être aussi imprimé 8 skilling. Donc, il y a deux erreurs dans ce timbre-là. Alors, ce timbre est considéré comme unique au monde. Il n'y en a pas deux comme lui, il n'existe pas de copie actuelle. C'est pourquoi, lors de sa dernière vente, il a été vendu 2 100 000 euros. Alors, pour moi, avant d'avoir pris mes renseignements, évidemment, hein, parce que maintenant que je le sais, mais avant d'avoir pris mes renseignements, ce minuscule bout de papier ne valait rien. Et si je l'avais retrouvé quelque part, croyez-moi bien, il aurait vite volé à la poubelle. Hein. Donc voilà, au travers de cet exemple, nous pouvons voir que tout n'est qu'une question de perspective. Paul avait une perspective céleste et pas une perspective terrestre. Alors posons-nous la question, où se trouvent nos vraies richesses ? Dans les biens ? Dans les objets que nous possédons ? Ou bien notre vraie richesse se trouve-t-elle dans notre relation avec Dieu ? Au seuil de la mort, il ne nous restera qu'une seule chose, la certitude d'appartenir ou pas au Seigneur Jésus, et que nous allons le rejoindre immédiatement ou pas. Tout le reste sera sans importance. Trop souvent, nous oublions les vrais trésors pour nous morfondre sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous aimerions posséder. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain, avec le contentement. Je vais essayer de lire tout le verset convenablement. C'est pas parce que je le connais par cœur que je le lis convenablement. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8. Même si Dieu désire combler nos besoins, nous avons tous besoin d'apprendre à être satisfaits de ce que nous avons aujourd'hui. Le contentement et la gratitude, et nous reviendrons tout à l'heure sur la gratitude, sont deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Le roi Salomon partage avec nous une bien désagréable nouvelle. Lorsqu'il nous le dit, Proverbe, chapitre 15, versets 15 à 17, « Tous les jours du malheureux sont mauvais. » Tous les jours sont mauvais. Le roi Salomon ne nous laisse pas beaucoup d'espoir. Il ne nous dit pas que parfois, il se pourrait que nous connaissions des jours mauvais. Non, tous les jours sont mauvais. Heureusement, la suite du verset nous apprend que le cœur content est un festin perpétuel. Et je vais vous lire ce passage. Proverbe 15, versets 15 à 17. « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Le cœur content, le cœur satisfait, le cœur reconnaissant est un festin perpétuel. Nous devons apprendre à être contents. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Nous devons apprendre à être satisfaits de ce que nous avons. Et lorsque je dis se satisfaire, eh bien, mes amis, je suis bien loin du compte, puisque le roi Salomon nous dit que le cœur content est un festin perpétuel. Un festin, pas des restes. L'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, versets 11 à 13, à être content de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous pouvons lire « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Alors pour ceux qui sont attentifs, hein, j'ai déjà lu ce verset en début, mais je trouve ce verset tellement intéressant que j'aimerais bien m'arrêter sur ce verset avec vous un petit moment. Vous avez bien entendu, Paul dit « j'ai appris ». C'est donc un apprentissage dont il s'agit. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et pourtant, Paul n'est pas dans une bonne situation, puisqu'il se trouve en prison. Alors, reprenons la lecture. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Verset 18, j'ai tout reçu, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie, malgré ma solitude. malgré ma pauvreté, malgré mes soucis financiers, malgré ma maladie, malgré la mort qui m'entoure, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voulons-nous saisir, avec l'aide de l'Esprit-Saint, voulons-nous saisir cette merveilleuse promesse, car elle est pour nous, elle est pour toi, elle est pour moi. Je puis tout, Dieu pourvoira. Maintenant, je voudrais vous lire une phrase d'un livre de Jean-Jacques Rousseau. Je trouve cette phrase très pertinente. Jean-Jacques Rousseau, en parlant d'un personnage de son livre, dit ceci. « Je ne l'ai jamais vu ni gai ni triste, mais toujours content. » Alors, bien sûr, Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas la Bible. Hein, mais dans cette phrase, il va à la rencontre de ce que dit la Bible, de ce que dit le roi Salomon et de ce que dit l'apôtre Paul. « Le cœur content est un festin perpétuel, nous dit le roi Salomon. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, dit l'apôtre Paul. Je ne l'ai jamais vu, ni gai ni triste, mais toujours content. » Cela ne veut pas dire que nous devons être des robots, hein, sans aucun sentiment. La tristesse et la joie sont évidemment notre lot quotidien ici-bas sur cette terre. Cela ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas avoir de l'ambition, des rêves, des désirs. Non, mais quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la situation, avec l'aide de Dieu, nous pouvons être contents, nous pouvons être satisfaits. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Je puis tout. Dieu pourvoira. Tout à fait dernièrement, j'ai lu ceci dans Le Vif. Pour accéder au bonheur. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'entends bonheur quelque part, ça me titille. Hein. Pour accéder au bonheur, présent, je veux entendre ce qu'on va me dire. Pour accéder au bonheur, il faut accepter l'adversité, les épreuves. Il faut accepter l'imperfection. Bref, il faut accepter la réalité du monde, ce qui n'empêche pas d'être heureux, d'exister. Qui est vraiment content de son sort aujourd'hui? Malgré tous les progrès que nous connaissons, il règne un profond climat de mécontentement. Et là où il y a réellement un problème, c'est lorsque le chrétien se laisse gagner par le mécontentement ambiant. Posons-nous la question, pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits? Parce que nous voulons plus, toujours plus. Et le plus souvent, hein, le toujours plus se traduit par des biens matériels. Alors, pas toujours, c'est vrai que ce n'est pas toujours des biens matériels, mais malheureusement, c'est quand même souvent le cas. Dans ces moments d'insatisfaction, je vous invite à lire ce verset de l'apôtre Paul. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quelle belle leçon, quelle grande leçon pour nous, enfants de Dieu. Ne pensez-vous pas que nous devrions revenir aux vraies valeurs? Mais me direz-vous, quelles sont les vraies valeurs? Eh bien, nous allons lire ensemble, parce que ça, nous allons le prendre ensemble, Galates 5, 22. Alors, on connaît aussi hein, ce verset par cœur, hein, presque par cœur. Je pourrais presque vous le lire, enfin, oui, sans le lire. Alors, Galates 5, 22, imprégnons-nous de la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, ce sont nos vraies valeurs. Hein. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un dictionnaire pour connaître la signification du mot bénignité, ben, je vous ai évité ce travail parce que j'y suis allé voir moi-même dans le dictionnaire. La bénignité, c'est posséder un caractère bon, doux et indulgent. Bon, doux et indulgent, ce n'est pas bénin que d'avoir la bénignité. Ce sont là nos vraies valeurs. D'un côté, nous avons les valeurs matérielles, les biens matériels. Ils sont pour le corps, pour la vie terrestre. Ils ne sont que passagers. Il n'y a pas d'attache remorque au cercueil. Moi, j'ai été à plusieurs enterrements. Je n'ai jamais vu un cercueil avec une attache remorque. Nus nous sommes venus, nus nous repartirons. Même si c'est dans notre plus beau costume, nus nous repartirons. D'un autre côté, nous avons les valeurs spirituelles, les biens spirituels. Ils sont pour l'âme, pour le cœur, et ils sont éternels. Ne nous laissons pas séduire par les biens matériels, recherchons plutôt les biens spirituels. Que préférons-nous posséder ? Nous préférons avoir une belle voiture ? Ou bien nous préférons avoir l'espérance d'être un jour réunis auprès de notre Seigneur ? Nous préférons posséder un coffre-fort avec de l'argent, de l'or, des titres, enfin non, maintenant les titres c'est fini, on ne peut plus les posséder, hein. Mais des bijoux alors. Ou bien nous préférons avoir un cœur rempli des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, et pourquoi pas la bénignité, maintenant que nous savons ce que c'est, hein. Nous préférons avoir une belle maison avec de beaux meubles, ou bien nous préférons avoir une famille unie, où règne l'amour, l'harmonie, la joie de vivre. Souvenons-nous de ce que nous avons lu. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, plutôt qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Qui de nous préférerait avoir tous les biens matériels du monde plutôt que la communion avec notre Père céleste ? Jésus nous parle et il nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Matthieu 16, verset 26. Jésus est en train de nous dire ceci. Lorsqu'on a le salut de son âme, lorsque l'on a Christ en nous, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, nous devrions être, que dis-je, nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Jésus s'est fait homme et il sait parfaitement ce dont chaque être humain a besoin. Nos besoins sont nombreux. Ils sont d'ordre physique, moraux, sentimentaux, spirituels. Dieu le sait. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais seulement, et ça c'est important, il y a une énorme différence entre nos besoins et nos désirs. Même si nous ne savons pas faire la différence, Dieu sait faire la différence. Et Paul précise, il précise bien que Dieu pourvoira à tous nos besoins, non pas à tous nos désirs. Nos besoins, c'est-à-dire aux choses indispensables. Pour terminer cette première partie, qui est le contentement de sa situation, Paul rappelle cette vérité à son disciple Timothée. C'est en effet une grande source de gain, la piété avec le contentement. Le contentement, c'est-à-dire être content de sa situation. Et Paul, qui a connu le froid, et la fin ajoute, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8. Maintenant, venons-en à notre deuxième point. Un jour, oui, je me suis amusé à lire une lettre complète de l'apôtre Paul. Je vous invite à le faire. C'est très intéressant. J'ai lu la lettre aux Colossiens, d'une traite. Et j'ai été très surpris. J'ai été très surpris de trouver au chapitre 3, à la fin du verset 15, une phrase de trois mots. « Et soyez reconnaissants ». Cette phrase se tient en suspens. Je dirais presque que cette phrase tombe là comme un cheveu dans la soupe. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en train de penser « Si un cheveu dans la soupe, ce n'est pas un des miens hein. ». Mais plus sérieusement, cette phrase se tient en suspens. C'est-à-dire que rien ne peut prévoir sa présence à cet endroit. Ni ce qui précède, ni d'ailleurs ce qui suit, ces trois mots, ne sont en relation directe avec cette phrase. L'apôtre Paul nous dit « et soyez reconnaissants ». En d'autres mots, au lieu de nous plaindre à tout propos, et c'est ce qui est sous-entendu, et c'est ce que nous faisons le plus souvent, et le mieux, c'est ce que nous faisons le mieux, oui. Paul nous recommande, au lieu de ça, d'être reconnaissant. Alors, pour illustrer ces trois mots, je voudrais prendre deux exemples d'hommes de Dieu qui, face à l'adversité, sont reconnaissants. Nous venons d'avoir notre premier exemple, l'apôtre Paul. Paul est en prison. Ce genre de prison est inhumaine. Pas de commodité, pas d'éclairage, pas de chauffage. Et parfois même, et nous le lirons tout à l'heure, Paul avait les fers aux pieds. Malgré tout cela, Paul est reconnaissant. Alors, si nous prenons par exemple la première captivité de Paul à Rome, que voyons-nous ? Nous voyons que Paul est non seulement reconnaissant, mais qu'il en profite. Moi, je me pose la question, je me dis, tiens, est-ce qu'il ne s'est pas dit, je suis en vacances, je vais en profiter, tiens. Il profite de son séjour en prison pour écrire pas moins de 3 lettres. Il va écrire la lettre aux Éphésiens, celle aux Colossiens et celle à Philémon. À tout le moins, ce sont les lettres que nous connaissons. Nous sommes sûrs que ces lettres-là, il les a écrites à cette époque-là. Peut-être y a-t-il d'autres lettres qui ont été perdues et qu'il a profité d'écrire lorsqu'il se trouvait en prison à Rome. Malgré la mauvaise condition dans laquelle il se trouve, Paul est reconnaissant. Paul est le champion de la reconnaissance. Nous pouvons choisir au hasard, n'importe quelle lettre de Paul. Quelle que soit sa situation, Paul est reconnaissant. Dans sa lettre à Philémon, au chapitre 1, verset 4, Paul dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. » Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire, Dieu veut que nous rendions grâce, que nous soyons reconnaissants et que nous le remercions en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Alors, si vous êtes comme moi, hein, et que vous n'êtes pas sûr de la signification de cette expression « action de grâce », eh bien, moi, je suis allé voir la définition. J'ai pris un dictionnaire, au hasard, j'ai été voir la définition. « Action de grâce ». L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et il l'en remercie. Fin de citation. Et c'est bien de cela dont nous parlons. Nous parlons bien de remerciement, de reconnaissance, d'action de grâce. L'apôtre Paul nous exhorte « et soyez reconnaissants ». Rien que dans la première lettre aux Colossiens, et je vous rappelle que cette lettre-là, il l'a écrite lorsqu'il était à Rome, en prison. Rien que dans la lettre aux Colossiens, par 6 fois, Paul nous recommande d'être reconnaissant. Non pas un verset, non pas 2 versets, mais 6 versets nous parlent de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Et je vais vous les lire, parce que je ne peux pas m'en empêcher, même si le temps avance. Colossiens, chapitre 1, verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Chapitre 2, verset 6 à 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont étonné, et abondé en action de grâce. » Abondé. Chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce au Père éternel. » Chapitre 4, verset 2. « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. » Et enfin, pour moi, ce qui est la cerise sur le gâteau, Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et soyez reconnaissants. Et pourtant, dans les Actes au chapitre 16, versets 22 à 25, nous voyons que Paul et Silas se trouvent dans une très mauvaise situation. Ils sont dans une mauvaise situation à cause de la guérison d'une servante qui avait un esprit de python. Les maîtres de la servante présentent Paul et Silas au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville ». Et nous lisons. La foule se souleva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges, après qu'on les eut chargés. Moi j'aime bien cette expression-là parce que je me rends bien compte de ce que ça signifie. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Malgré les situations difficiles que l'apôtre Paul a connues dans son ministère, Paul est reconnaissant. Paul est couché dans une cellule humide. Il fait nuit. Il fait froid. Le dos de Paul et de Silas saigne à cause des coups qu'ils ont reçus. Les articulations de Paul sont douloureuses et ses pieds sont meurtris par les fers. Et nous dit l'Écriture, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Est-ce que vous pensez un seul instant que j'aurais réagi de la même manière? Ben moi, je ne crois pas. C'est vrai que j'aurais prié le Seigneur, mais je n'aurais pas eu exactement la même notion que la notion que Paul avait. Moi, j'aurais dit au Seigneur, tu vois, j'ai encore, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois, été battu pour toi, à cause de ton nom. Alors que j'ai déjà tellement mal au dos, mon bassin me fait souffrir sans suffisamment recevoir de coups comme ça. Il ne faut pas en remettre une deuxième couche. Mon bassin, oh là là, me fait souffrir. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux laisser faire cela? Je suis ton serviteur, après tout. Paul ne nous dit pas seulement « et soyez reconnaissants », mais il nous montre qu'au travers de ses expériences, au travers de son vécu, au travers de ses souffrances, il demeure reconnaissant. Paul n'est pas un beau parleur, c'est un beau faiseur. Alors me direz-vous, comment est-ce possible d'être reconnaissant dans des circonstances difficiles, voire même des circonstances périlleuses? Alors pour pouvoir répondre à cette question, nous allons prendre un autre exemple. Nous allons prendre l'exemple du roi David. Le roi David est non seulement reconnaissant, mais il est reconnaissant avant même que Dieu n'agisse en sa faveur. Alors nous allons faire trois lectures dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel. Alors je vous explique la situation. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, nous voyons le roi David, un vieillard aux cheveux blancs, nu-pied. Il est accompagné de serviteurs fidèles et il fuit devant Absalom, son propre fils. Celui-ci le poursuit à la tête d'une armée pour s'emparer non seulement du royaume, mais aussi par la même occasion, Absalom désire mettre fin à la vie de son père. Cette nuit-là, le grand roi est couché sur la terre nue avec pour seul toit le ciel étoilé. 2 Samuel, chapitre 15, verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pied et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Chemin faisant, nous pouvons voir l'attitude de David commencer à changer. Malgré la douleur de voir son fils à ses trousses pour le tuer, malgré les pieds nus, et certainement ils sont en sang, David dit ceci, 2 Samuel, chapitre 16, versets 12 à 14. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Malgré sa mauvaise situation, Dieu parle de l'Éternel comme un Dieu qui change les situations, un Dieu qui bénit, un Dieu qui fera du bien en retour des malédictions, en retour des malheurs d'aujourd'hui. Je continue la lecture, verset 13. David et ses gens continuaient leur chemin. Et Chimé marchait sur le flanc de la montagne près de David. Hein, certainement que c'était une colline escarpée et qu'ils étaient face à face, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et il montait le flanc de la colline près de David. Et en marchant, Chimé le maudissait. Il jetait des pierres contre lui et il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim et là, ils se reposèrent. Et la Bible est très précise. Elle est très précise sur ce sujet. Nous voyons que pendant que le roi David se repose, son fils Absalom prend conseil et il prépare sa tactique. 2 Samuel, chapitre 17, verset 12, « Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous puissions le trouver et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, c'est-à-dire le roi David, ni aucun des hommes qui sont avec lui. Voilà ce que dit Absalom, fils de David. Ni mon père, ni aucun de ses hommes n'en réchapperont. De son côté, que fait David ? Ah, eh bien, nous pouvons lire ce que fait le roi David, mais cette fois-ci, il va falloir prendre les psaumes, au chapitre 3, au verset 1. Et nous lisons, chapitre 3, verset 1, « Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Salomon, son fils. » Verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Verset 8. « Le salut est auprès de l'Éternel. » Voilà ce que dit David dans sa prière de reconnaissance, une prière de foi, avant même que Dieu ne lui donne la victoire. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Pourtant, nous l'avons lu tout à l'heure, pendant cette longue ascension, il est pieds nus et il pleure. Mais quand vient la nuit, avant de s'endormir, il prie. Et dans la prière que nous venons de lire, il montre toute sa confiance en l'Éternel. Qu'aurions-nous fait à sa place ? Alors peut-être que, enfin moi je m'imagine un peu comme ça, cette nuit-là aurait été une longue nuit de veille pendant laquelle je me serais lamenté sur mon triste sort. Et je n'aurais guère dormi. Lui, David, il écrit ces mots, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Peut-être que pour nous chrétiens, c'est une leçon à retenir. « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je mets toute ma confiance en toi. Tu es mon soutien, tu es mon bouclier. Tous mes soucis, je les dépose au pied de ta croix. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Et le temps va nous manquer, évidemment, le temps va nous manquer. Et je suis bien obligé de vous résumer cette aventure, cette poursuite d'Absalom et du roi David. Mais si vous lisez 2 Samuel, chapitre 16 jusqu'au chapitre 19, vous pourrez voir bien d'autres événements pénibles durant cette guerre opposant le fils au père. Vous verrez le fils allant jusqu'à violer les femmes du roi David. Vous verrez ses amis, ses proches, ses conseillers changer de camp et faire allégeance à Absalom. Vous verrez Absalom pendu par les cheveux et ensuite mis à mort alors que le roi David avait ordonné de ne pas toucher à son fils. Et enfin, je vais vous le lire tout de suite, vous verrez la réaction du roi David face à la mort de son fils. Son fils, qui, rappelons-le quand même, voulait tuer son père afin de prendre le pouvoir. Alors, je lis pour vous 2 Samuel, chapitre 18, verset 33. Le roi vient d'apprendre la mort de son fils. Alors, le roi saisit d'émotion, monta dans la chambre, au-dessus de la porte, et il pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils ?» Mes amis, je voudrais vous rappeler que c'est le roi David qui a écrit la plupart des psaumes. Toutes ces merveilleuses prières, tous ces merveilleux chants de louange, de confiance, de reconnaissance, d'action, de grâce. C'est ce roi-là qui les a rédigés, malgré les épreuves, malgré sa situation, et quelle que soit sa situation, dans la joie comme dans la tristesse, il loue, il remercie l'Éternel son Dieu. Et soyez reconnaissants. Depuis de nombreuses années, les hommes perdent le sentiment de reconnaissance. À l'heure actuelle, tout paraît normal, tout indu. Alors posons-nous la question, et moi, est-ce que je suis reconnaissant ? Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul écrivait déjà ceci aux Romains, au chapitre 1, verset 21. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. » En d'autres mots, ils ne l'ont pas remercié, ils n'ont pas été reconnaissants, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ce même apôtre, prédisant des temps difficiles, dira à son disciple Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ingrats. Ça signifie qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils seront ingrats. Ils seront sans reconnaissance. Possédons-nous un esprit de reconnaissance? Possédons-nous un esprit de reconnaissance? Ne nous arrive-t-il pas, comme le dit l'apôtre Paul, de nous égarer dans nos pensées au lieu d'être reconnaissants? Bénissons Dieu. Bénissons Dieu pour les merveilles de sa création et pour le réconfort, pour le soutien qu'il veut nous donner constamment et plus spécialement, plus particulièrement quand nous sommes dans la peine. Bénissons-le également dans les jours de joie. Pourquoi pas? N'oublions pas de remercier notre Seigneur dans les jours de joie, dans les jours de soleil. Bénissons l'Éternel notre Dieu parce que nous étions sous la sentence de la mort et que nous avons obtenu la grâce divine d'être justifiés. Bien plus, Dieu nous accepte comme ses fils, cohéritiers avec Christ. Quelle énorme dette de reconnaissance nous avons pour tous ces biens immérités et qui sont devenus notre partage par la grâce de Dieu. Et soyez reconnaissants. Qu'évoquons-nous le plus souvent dans nos prières? Des demandes ou des remerciements? Lorsque nous prions Dieu, nous pensons surtout à lui exposer nos besoins. Mais nous devons aussi le remercier. L'apôtre Paul nous invite à joindre à nos supplications des actions de grâce, notre reconnaissance pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde sans cesse. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Parmi nos devoirs envers Dieu, celui de la reconnaissance est l'un des plus importants. Tout appartient à Dieu. C'est de lui que nous tenons toutes choses. Et tout d'abord, la vie. Car c'est en lui et par lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, selon la belle expression de l'apôtre Paul. Et soyez reconnaissants. Mes amis, mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas terminer sans vous parler d'une autre reconnaissance que nous devrions avoir. La reconnaissance envers nos frères et sœurs qui œuvrent ou qui ont œuvré pour le service. L'apôtre Paul était reconnaissant. Il était reconnaissant non seulement envers Dieu, mais il était le champion de la reconnaissance envers ses collaborateurs. Et je voudrais vous lire quelques versets. Je sais qu'il se fait tard, mais je vais quand même vous les lire. Je ne vais pas vous donner les références, mais écoutez bien. « Saluez Marie, qui s'est bien fatiguée pour vous. Elle s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Tryphène et Tryphose, qui tous deux travaillent fidèlement pour le Seigneur, ainsi que ma chère Perside, qui s'est donné tant de peine pour le Seigneur. Marc, mais précieux pour le ministère. Il fait l'éloge à Épaphras pour son assiduité dans sa vie de prière. Vous avez les salutations d'Épaphras, un serviteur de Christ Jésus, qui mène sans cesse pour vous le combat de la prière afin que vous teniez debout. Je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Pour ce qui est de Tite, c'est mon associé et coopérateur auprès de vous. Quant à nos frères, ce sont des envoyés des églises. Ils sont, écoutez bien, ils sont la gloire du Christ. Donnez-leur donc à la face des églises, donnez-leur donc la preuve de votre charité, la preuve de votre amour. Et il fera de même avec Timothée, avec Évodie et Saint-Tichée. N'oublions pas d'être reconnaissants envers nos frères. En faisant cela, nous serons reconnaissants envers Dieu qui nous les a donnés. Tout à l'heure, après avoir pris ma tasse de café, je passerai dans la galerie des portraits tout en bas. Et je regarderai un petit peu tous ces visages, tous ces hommes qui ont été au service du peuple de Dieu, qui ont été au service de l'Assemblée de Glun, Et tout à l'heure, je m'arrêterai devant le premier portrait, celui du portrait du pasteur actuel. Et je lui ferai un petit clin d'œil. Et je lui serai reconnaissant. Et soyez reconnaissant. Et je pourrais donner d'autres exemples. Allez, je vais le citer sans lui s'en donner son nom. Nous avons parmi nous quelqu'un qui a travaillé 30 ans pour le Seigneur. 30 ans. Et soyez reconnaissant. Alors, mes amis, je termine par une image. Savez-vous comment se désaltèrent les oiseaux? La plupart des oiseaux doivent renverser la tête en arrière à chaque gorgée. Sans cela, ils ne peuvent déglutir. Ils ne peuvent pas boire s'ils ne lèvent pas la tête vers le ciel. Quelle belle image! Ils lèvent la tête vers le Père Céleste, comme pour lui rendre grâce. Belle image, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, nous l'avons chanté. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Remercions continuellement notre Seigneur pour chaque expérience de la vie, pour chaque leçon, pour chaque épreuve qu'il nous donne de goûter, et profitons-en pour grandir dans la foi. La conclusion de ce message ne comporte que trois mots qui, je l'espère, resteront gravés à tout jamais dans notre cœur, au plus profond de notre âme. Et soyez reconnaissants. Amen.